Bonsoir à tous, merci de regarder, c'est à vous en direct, on est ensemble jusqu'à 20h50 et un salut chaleureux à Babette et un grand merci à l'équipe de m'accueillir ce soir, salut à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de m'accompagner, Émilie dans l'actualité.
La dernière des dernières chances pour sauver la planète, j'ai nommé la COP26.
Et on en parlera avec l'un de nos grands explorateurs, Jean-Louis Etienne. Mohamed, la story.
La dignité, le courage de Julia Valach, l'une des dernières rescapées de la Shoah, elle se confie ce soir dans cet avou.
Et Mathieu dans le 5 sur 5.
Le président de la République Emmanuel Macron qui traite le Premier ministre australien de menteur.
Est-ce que c'est du jamais vu? On posera la question en tout cas au spécialiste de géopolitique Pierre Aski de France Inter. Patrick, dans l'édito du jour.
J'ai pas choisi un sujet simple.
Non.
Éric Zemmour et l'antisémitisme.
Oula. On a hâte d'entendre ça. Et un mystère?
Un
grand mystère, Eva.
Un homme multimillionnaire, beau. Et philanthrope. Oui, ça existe.
Ali Badou.
Ah, on verra, peut-être.
Ça, c'est le dire de Mohamed. Et au sommaire, ce soir aussi, des femmes et des dieux. L'une est rabbin, l'autre est imam, la troisième est pasteur. Floriane Chinsky, Kaïna Baloul, Emmanuel Sebol publient un livre d'entretien passionnant, un dialogue indispensable pour notre époque. Et dans la suite de C'est à vous, après 20h, une pièce formidable, 88 fois à l'infini. Une pièce qui réunit pour la première fois sur scène deux monstres sacrés, François Berléand et Nils Arstrup. Ils nous rejoindront tout à l'heure. Et puis Flashback, un film à ne pas manquer. Et c'est Patrick Cohen qui le dit. Et il a évidemment raison, un film drôle, engagé, signé Caroline Vigneault avec Sophia Aram à l'affiche, l'histoire de la lutte pour la cause des femmes comme on ne l'a jamais raconté. Et on a le bonheur ce soir et toute la semaine d'ailleurs d'être accompagné par la chef Mélanie Serre du restaurant Louis Vin à Paris. Bonsoir chef.
Bonsoir Ali. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors ce soir, je vais vous préparer un tartare de bœuf, d'onglet de bœuf accompagné d'huîtres du Cap Ferret avec un petit bouillon thaï. Vous allez voir, c'est un délice.
On a hâte d'y être. On va évidemment commencer avec l'édito, Patrick. Et un édito aujourd'hui, donc, sur un sujet compliqué.
Voilà, il y a un jingle qui part ou pas? Ou non, il n'y a pas de jingle?
On peut lancer le jingle.
Non, je ne sais pas.
Et donc, l'édito, Patrick.
Ce soir, avec...
Ce soir, avec... un sujet assez compliqué. Toute l'extrême droite qui est...
radicale, rassemblée... Derrière
Éric Zemmour.
Oui, c'est une conjonction impressionnante, inédite depuis les grandes heures du Front National dans les années 90. Éric Zemmour est parvenu à rallier l'essentiel de ce qu'on appelle la fachosphère, royaliste, identitaire, suprémaciste blanc, catholique ultra-conservateur et même révisionniste antisémite. Au premier rang de ses soutiens, de nombreux militants de l'Action française, le mouvement royaliste et contre-révolutionnaire cofondé par Charles Maurras, qui se tenait jusqu'ici à l'écart de la vie démocratique, qui n'a même jamais fait campagne pour Jean-Marie Le Pen, des militants séduits par le discours de Zemmour sur le grand remplacement, par ses références constantes à l'historien de l'Action française, Jacques Bainville, et qui peuplent les rangs de son organisation de jeunesse, Génération Z. À son service également d'anciens membres de Génération Identitaire, le groupuscule dissous en mars dernier après ses actions anti-immigrés et que Zemmour avait qualifié de héros. Mais aussi tout ce que la toile compte d'influenceurs d'ultra-droite et de fanatiques de la pureté raciale, le néofasciste Papacito, le suprémaciste blanc Daniel Conversano et encore d'anciens lieutenants de Bruno Maigret comme Jean-Yves Le Gallou, des cadres de la Manif pour tous. Hier soir, Renaud Camus, le propagandiste du grand remplacement, idéologie meurtrière dont s'est réclamé le terroriste de Christchurch en fusillant les fidèles de deux mosquées il y a deux ans en Nouvelle-Zélande, 49 morts, Renaud Camus est venu en personne sur le plateau de CNews pour dire la grande espérance que suscite chez lui la candidature Zemmour. Enfin, le négationniste Hervé Ryssen, un émule de Forisson qui se présente lui-même comme anti-juif et antisémite, plusieurs fois condamné pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l'humanité, vient lui aussi dans la revue Civitas d'affirmer sa préférence pour le programme Zemmour.
Comment expliquer cet engouement, Patrick, et le fait que des antisémites puissent être séduits par un juif?
Pour son entreprise d'union des droites autour d'une matrice d'extrême droite, Éric Zemmour a fait sauter tous les tabous, ou plus exactement, il dynamite tout l'héritage du dreyfusisme, de la résistance et de la lutte contre l'antisémitisme. En contestant l'innocence du capitaine Dreyfus, en critiquant l'action de Zola et des dreyfusards qui auraient affaibli la France, il l'a dit, en réhabilitant l'extrême droite vichiste et la collaboration, en faisant l'éloge de Pétain qui, contrairement à De Gaulle, n'a pas réalisé le coup d'État, il l'a écrit dans Le Destin français, en dénonçant la loi Pleven qui pénalise le racisme et l'antisémitisme, loi votée à l'unanimité du Parlement en 72, ainsi que la loi Guesso qui réprime le négationnisme, en rejetant le discours du Veldiv de Jacques Chirac qui reconnaissait qu'avec cette rafle, la France, vous vous souvenez, accomplissait l'irréparable, en défrancisant les victimes juives de Mohamed Merah coupables d'être enterrées en Israël. Bref, toute une, et j'en oublie, bref, mais toute une réécriture radicale de l'histoire au grand jour, impunément, pourrait-on dire, sur des plateaux télé et dans des livres à succès, ce qui n'avait jamais été ainsi propagé en France depuis 75 ans, au moment où disparaissent les derniers témoins directs des horreurs de Vichy.
Qu'est-ce que ça vous inspire, en tout cas, cet usage politique de la religion et ce que disait Patrick, à savoir que les antisémites puissent être séduits par un juif ?
Oui, pour moi, ça fait écho à ce qu'on voit au tout début de l'Exode. En réalité, au tout début de l'Exode, le pharaon a peur que les Juifs, que les Hébreux à l'époque prennent l'ensemble de la place. Et pour cette raison, il essaye de détruire le judaïsme à ce moment-là. C'est ce fantasme. Et ce qui est important pour moi, c'est de me rappeler en permanence que le centre du judaïsme, c'est justement la sortie d'Égypte. Ou en tout cas ce récit, c'est le fait de dire que puisque nous avons été étrangers, nous devons respecter l'étranger comme nous-mêmes, et faire particulièrement attention à lui et à elle, je pense que la grande question, c'est est-ce qu'on est capable de stopper le cycle de la violence ou est-ce qu'on perpétue ce cycle ? Si moi j'ai été opprimée ou si je ne suis pas sûre de mon identité, est-ce que je vais essayer de devoir l'imposer trois fois plus aux autres ? Et jusqu'à quand est-ce que ça va se perpétuer ? Et comment on fait pour l'arrêter ? Il y a différentes façons de le faire. Et la première, je pense que c'est de se recentrer sur ce qui est vraiment notre identité, parce que nos identités, à toutes et tous, en tant qu'êtres humains, sont fortes.
Bien sûr.
On n'a pas besoin de se battre de cette façon-là,
Mais toutes les trois, et vos trois religions sont attaquées par Éric Zemmour. Il justifie les massacres de la Saint-Barthélemy, il justifie le siège et le massacre de La Rochelle par Richelieu. Les musulmans... Pas la peine d'en parler, on sait ce qu'il en pense. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction en vous qu'on puisse être attaqué de cette manière-là, dans un discours politique, encore une fois ?
En fait, moi, ma réaction, c'est de me dire pourquoi cet homme ressent-il autant de haine pour tous ceux qui l'entourent et pour lui-même, en fait. C'est la haine de soi. Il projette la haine de lui-même sur les autres. Et je me dis, comment on peut être aussi malheureux pour vouloir autant de mal à tout le monde ?
Voilà. Kaïna Balloul ?
Alors, vous l'avez dit, Éric Zemmour instrumentalise la religion. Et les intégristes islamistes instrumentalisent la religion. Zemmour est complexé de ses origines, de son histoire, je pense, parce que Zemmour est un mot berbère. Et ça, il a tendance à l'oublier, à parler de la francisation, enfin, de cette idée de franciser les prénoms musulmans. Pour moi, Zemmour a exactement le même fonctionnement que les intégristes islamistes. Alors que peut-être qu'au fond de lui-même, il est... Oui, tout à fait. Et même concernant son approche en ce qui concerne les textes fondateurs, les textes de l'islam, par exemple, il en fait exactement la même lecture fragmentaire, partielle, superficielle, qui n'a aucune approche historique ni contextuelle des textes.
Et je disais que votre livre était important parce que c'est un livre qui met justement en avant l'importance de l'interprétation des textes sacrés des femmes et des dieux vient de paraître et c'est un dialogue entre vous trois, on découvre vos itinéraires, des parcours évidemment différents. Il y a question du poids du patriarcat, de la place du corps dans la religion, de la sexualité aussi. Mais d'abord, le titre « Des femmes et des dieux », c'est un titre assez étonnant parce qu'au fond, pourquoi pas « Dieu » avec une majuscule puisque c'est le même Dieu ?
Oui, alors moi, c'est vrai que c'est un peu la remarque que j'ai mise dans la présentation du livre. Pour moi, il y a un seul Dieu, mais après, il faut respecter justement la diversité des approches et la diversité de nos croyances et de nos religions.
Mais Dieu au pluriel ?
Alors, la question se pose vraiment, parce qu'à partir du moment où on dit Dieu, à quoi est-ce que ça renvoie ? Et moi, j'avoue que dans ce titre... j'ai un problème avec deux mots, le mot « femme », parce que définir ce qu'est une femme, c'est toute une histoire, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et Dieu, c'est quelque chose d'indéfinissable. Et en même temps, c'est intéressant de les mettre à cet endroit, de le voir, de l'expliquer, de le déconstruire, de le partager.
Imam, pasteur, rabbin, ce sont des noms masculins. On a tout de suite dans la tête l'image d'un homme quand on les évoque. Qu'est-ce que ça fait à une femme d'occuper ces postes-là ? Ou qu'est-ce qui donne envie à une femme d'occuper ces fonctions-là ?
Je commence.
Ouais. Oh.
Ce qui m'a donné envie d'être pasteur, c'est parce que moi, j'ai entendu un message de vie, un message d'espérance, un message de libération de la part des pasteurs que j'ai eus quand j'étais enfant, parce que j'ai grandi dans la religion protestante. Et ce message-là de vie, j'ai eu envie de pouvoir le dire à mon tour et de le transmettre à mon tour.
Même question. Qu'est-ce qui vous donne envie? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement rare, en fait, d'être rabbin, rabbine, je ne sais pas le mot que vous préférez.
Il y a de nombreuses raisons. Principalement, ce que je préfère, c'est la possibilité de, puisque j'ai un certain titre et une certaine crédibilité, de reprendre le pouvoir, de le repartager, que les gens parlent, en étant sûr que personne d'autre que moi ne se l'approprie là où je me trouve et que ça puisse vraiment, vraiment circuler. Et voilà, je sais que je peux le faire et grâce à ma qualité de rabbin, c'est une chose que je suis en mesure de faire circuler et d'écouter les autres et donner de la place à tout.
Ouais, Émilie.
C'était pas forcément une projection, il n'y a pas beaucoup de modèles. Quand on regarde, il y a seulement 5 femmes qui exercent aujourd'hui en France en tant que rabbin. Dans le monde, il a fallu attendre 1990 pour qu'une femme accède à ce poste pour la première fois. Yaina Baloul, vous êtes devenue la première femme à occuper la fonction d'imam en France. C'était en 2019. Un an plus tard, vous inauguriez une mosquée libérale mixte, baptisée Fatima, où le voile est facultatif, où les hommes et les femmes peuvent prier ensemble. C'était une première. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'était une révolution?
Oui, je pense qu'on peut dire que c'est une révolution, même si ailleurs dans le monde, il existe des femmes imams. Aux États-Unis, il y en a plusieurs, au Canada, en Suède, au Danemark, en Allemagne aussi.
Donc la France était en retard, on peut le dire?
La France est en retard, oui. Et puis, quand on revient à l'histoire de l'islam et au texte fondateur, on retrouve aussi le cas d'une femme qui a été imam et désignée par le prophète lui-même pour être imam. Mais ça, on ne le sait pas.
Au tout début de l'islam, quand on lit les textes sacrés, c'est une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'on peut, je le dis de manière un peu brutale, est-ce qu'on peut se dire que Dieu préfère les hommes? Ça vous fait rire?
Oui, ça me fait rire. Moi, je suis convaincue que Dieu préfère les femmes. Non, en fait, il y a beaucoup. Enfin,
Dieu, vas-y. Elle préfère les femmes.
Non. Dieu, elle préfère les femmes. C'est joliment dit, mais...
Oui, pourquoi pas. Dieu contient tout. Il contient les deux genres. Et même au-delà, en fait, on réduit Dieu à notre psychologie humaine très limitée. Mais Dieu est au-delà de ça.
On cite souvent des textes religieux où la femme serait soumise à l'homme ou des choses comme ça. Ce sont des idées reçues ou... Est-ce que c'est...
On y revient pas mal dans le livre, peut-être juste pour rappeler que le premier être humain est créé autant femme que homme et de façon indissociable et que c'est ce mélange-là qui est censé être à l'image du Dieu créateur. Donc la plus haute dignité, l'immense dignité des êtres humains, elle est dans ce premier être humain qui a égalité femme et homme. Mais il y a plein d'autres exemples, bien sûr.
Est-ce qu'il faut malgré tout faire le tri dans les textes sacrés? Est-ce que vous faites le tri? Vous avez une expression très forte, Kaina. Vous dites « Je suis souvent frappée de voir des gens utiliser le texte coranique comme s'il s'agissait de la notice d'un lave-linge. »
Oui, mais c'est vrai, je l'ai déjà vu.
De manière totalement littérale.
Mais tout à fait. Et ça m'a heurtée de voir ces comportements des gens qui prennent le texte coranique pour une notice. Or, le texte coranique est un texte très complexe. C'est un texte qui est très très riche en même temps de son histoire, de toute une mythologie, d'un imaginaire. Et il est important, lorsqu'on s'intéresse à ces textes sacrés, de remettre tout ça en perspective et notamment d'avoir une approche historique très exigeante pour lire ce texte-là.
Et rationnel aussi. Et c'est intéressant les thèmes que vous avez choisi d'aborder toutes les trois dans ce livre. Parmi eux, il y a... La sexualité?
Oui, dans vos échanges, il est question de sexualité, de désir, avec un point commun entre vos trois religions, les très nombreux interdits. Et pourtant, vous en parlez, cette sexualité. Est-ce que ce n'est pas, et est-ce que ce n'est plus un tabou, selon vous? Alors, moi, je pense que, surtout, à la base, ce n'était pas un tabou, en fait, puisque la pensée juive essaye de voir un certain nombre de valeurs et comment elles s'appliquent dans tous les domaines de la vie. Donc je ne vois pas pourquoi la sexualité échapperait à ça. Une des phrases que j'aime le plus dans le Talmud de Babylone, enfin, qui est très importante, c'est de dire qu'il faut profiter de ce... Il ne faut pas passer à côté d'un plaisir dans ce monde et qu'en même temps, il faut prendre plaisir à ce monde en prononçant une bénédiction. Et donc, il faut voir, c'est-à-dire dans le partage, et la sexualité est un lieu essentiel de partage, de communication, de sensibilité, où on est à nu au sens propre. Et donc, ce serait incroyable de ne pas en parler, en fait. Donc, c'est plutôt une tendance récente qu'on peut interroger. Pourquoi est-ce que le sexe est devenu tabou et à qui profite le crime? Parce que c'est un peu un crime, quand même, quand on ne parle pas de sexualité.
Oui, et Kanina Balloul, vous dénoncez, je vous cite, une immense hypocrisie autour de la question de la sexualité dans l'islam. Vous pouvez nous expliquer ce point?
Oui, ben encore une fois, c'est vraiment la domination patriarcale qui s'est arrogée le pouvoir de dicter les règles, non seulement les règles religieuses, l'interprétation des textes sacrés, mais aussi les règles qui doivent régir dans la société, les rapports entre hommes et femmes, et du coup les rapports intimes et sexuels dans le couple. Mais il se trouve qu'à chaque fois, le résultat, c'est que c'est la femme qui se retrouve la victime. Elle est la victime de ces règles définies par les hommes.
Et il y a des règles, évidemment, l'adultère, enfin, il y a énormément de questions qui concernent la sexualité et les contraintes qu'impose la religion. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là aussi, que parler de sexualité, c'est pas simple quand on est face aux fidèles et qu'on fait référence aux textes sacrés?
Oui, c'est pas simple parce que les textes que l'on a en tête, ou en tout cas ceux qui nous sont renvoyés très régulièrement, sont pris soit de manière très littérale, soit hors de leur contexte. Et donc c'est, voilà, femmes, soyez soumises à vos maris, ou que les femmes se taisent dans vos assemblées. Voilà, ça c'est les deux versets qu'on connaît.
Tu ne convoiteras
point. Ah, oui, mais ça, voilà. Mais ça c'est pour tout le monde.
Oui.
Voilà. Mais on sort le texte de son contexte sans voir pourquoi l'auteur, alors soit l'apôtre Paul, voilà pourquoi l'auteur écrit ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu, dans ce livre, aller plus loin et dire, voilà dans quel contexte le texte est écrit, voilà ce que Paul voulait écrire, ou voilà ce qu'il voulait dire, et qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui de notre manière de lire le texte.
Oui.
Il n'y a pas des textes à enlever, il y a juste à comprendre pourquoi ils ont été écrits, et cette intuition, est-ce qu'elle est valable aussi pour nous aujourd'hui?
Justement, aujourd'hui, on vit dans une société, la société française, elle est largement désenchantée, sécularisée, les gens croient de moins en moins, les chiffres l'indiquent, et pourtant, la religion occupe une place qui reste fondamentale pour beaucoup, pour se définir, pour pouvoir se définir. Comment est-ce que vous expliquez le paradoxe?
Moi, je pense que la dimension spirituelle est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Alors, beaucoup de gens ont une spiritualité qu'ils disent non religieuse, et ça peut se comprendre, et ça se respecte. Mais la spiritualité est aussi une grande partie, fait partie de la religion.
Il y a la question de croire, et Dieu, on peut mêler Dieu à cette histoire-là, mais il y a la question de en quoi on croit profondément. Et si on croit en rien, comment on fait par rapport à ce monde? Est-ce qu'on est totalement soumis au consumérisme ou à ce que d'autres essayent de nous vendre? Comment est-ce qu'on mène sa barque? Est-ce qu'on a cette liberté-là? Et ouais. Est-ce qu'on a une philosophie ou une pratique ou des groupes de soutien humain qui nous permettent de nous appuyer pour changer les choses? Le judaïsme, c'est une possibilité, les autres traditions religieuses aussi. Peut-être d'autres choses comme la communication non-violente, par exemple, qui est vraiment structurée, c'est autre chose. Mais en tout cas, je pense que la question, en ces temps difficiles, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui nous permet de penser, qu'est-ce qui nous permet de nous remettre en question, qu'est-ce qui nous permet de nous entraider quand on en a besoin, et on en a besoin pas mal quand même.
Et on va en parler avec Mohamed dans un instant, mais vous partagez le point de vue. Est-ce que la laïcité, vous la voyez comme un obstacle, comme
absolument
des limites, pas, des barrières ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Non, la laïcité, elle est nécessaire, elle est fondamentale, elle est très importante. Le danger, c'est quand la laïcité voudrait faire dire aux croyants « taisez-vous ». Et gardez vos convictions pour votre maison. Parce qu'à ce moment-là, dans l'espace public, on ne parle plus de ce qui est important pour les croyants, ce sur quoi ils se fondent.
Hein. Oui, bien sûr.
Et du coup, c'est comme si on mettait un couvercle sur la cocotte minute. À un moment, ça explose. Mais non, soyons en dialogue, soyons en relation les uns et les unes avec les autres. On apprend les unes et les uns des autres.
Et c'est
extraordinaire.
On crée une schizophrénie, finalement, parce que dans l'espace public, il faut être une personne sans religion, et puis dans l'espace intime, avoir sa religion. Donc, oui.
Et plutôt que d'étouffer...
Il y a évidemment la question de la croyance, et on va continuer à en parler. Vous restez avec nous. On continue à évoquer l'actualité tout de suite avec la story de Mohamed Bouafsi. « Re-salut Mohamed.
Rebonsoir Ali, rebonsoir à toutes et à tous.
Tu veux nous parler de Julia Valach. Julia Valach, c'est l'une des dernières rescapées des camps de concentration et d'extermination de l'Allemagne nazie. Et Patrick, il faisait référence justement au fait qu'il y ait de moins en moins de témoins et de survivants. Et vous nous racontez l'histoire donc de Julia Valach ce soir.
Julia Valach est née en France, à Paris, en 1925, en juin 1925. À 17 ans, elle est arrêtée et déportée avec son père sur dénonciation d'une voisine. Pendant 2 ans, elle connaît l'horreur du camp d'Auschwitz-Birkenau. En Pologne, elle attrape le typhus, maladie qui rend squelettique. L'un des chefs du camp, Franz Hössler, veut l'envoyer à l'hôpital d'Auschwitz. Elle refuse et le raconte à Quentin Schatz et Audrey Payas.
Le typhus est une maladie horrible. Vous vous videz de la tête aux pieds. Même Hössler disait, tu dois te soigner, il faut que tu ailles là. Non, je ne vais pas là. Moi, je me soigne toute seule, personne ne me touche. Un an après, j'ai réussi à m'en sortir. Et les copines disent, regarde, il y a Hössler, il va te reconnaître. Je dis, il ne peut pas me reconnaître. Un an après, je suis devenue normale. Eh bien, il m'a regardé, puis il dit, ah, c'est une goutte, puis il est parti.
Je la coupe, mais je trouve ça juste fou qu'elle raconte sa déportation en cherchant quand même l'humanité dans SS.
C'est le seul qui m'a sorti de la file pour aller au four crématoire, la seule.
Julia Valach voit ses amis mourir sous ses yeux, dans les camps. Épuisée, malade, elle survit au coup, au froid, et à la fin, elle va aussi connaître les marches de la mort, 3 mois à travers la Pologne et l'Allemagne enneigée. C'est là qu'en 1945, avec quelques femmes, elle trouve encore la force et le courage de s'enfuir. Après plusieurs semaines de marche, elle rencontre un soldat. Elle craigne de retrouver un Allemand, un SS. Elle tombe sur un militaire d'un autre pays.
On tombe sur un soldat américain. Il a fait Paul Sirouski, Fransouski. Alors, bon, je fais French. Ben, toutes les femmes françaises sont des femmes volontaires. Quoi ? On n'est pas des collaborateurs ? Rien du tout. Montrez-moi vos papiers. On n'a pas de papier. Vous êtes donc des collaborateurs avec les Allemands. Il m'est tellement énervé, je soulève mon bras. Hein, et je fais, ça tu connais ? Il me dit, tu peux pas dire que t'es juif ? Ben non, on a oublié de dire hein, maintenant. Ça fait 3 ans que je le dis plus.
Pas à pas, Julia Valach va entamer une longue marche vers la reconstruction. Elle va tomber amoureuse, se marier et fonder une famille. Elle qui a vécu l'horreur ne croit plus en Dieu. Elle va nourrir ses enfants d'amour, mais aussi de souvenirs de cette déportation. Sa petite fille, Frankie, décide alors de réaliser un film sur sa grand-mère autour du devoir de mémoire pour ne jamais oublier.
Pourquoi tu me filmes ?
Parce que...
Réponds-moi, c'est pseudo.
Pourquoi tu filmes ?
Comme ça, j'ai des images.
Et puis ?
Je les garde.
Voilà, t'as bien raison.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Non, c'est pas ça. C'est que je veux dire, tu peux montrer à tes enfants, à tes sœurs et tout ça.
Bah ouais.
La Seconde Guerre mondiale s'est terminée en 1945, 75 ans après. Julia Valach assiste encore parfois à des scènes antisémites. Et entre la grand-mère et la petite fille, les réactions ne sont pas les mêmes.
Il y a un truc que j'ai gagné, je pleure plus devant les insultes. Parce qu'avant... Ça me faisait vraiment pleurer. Maintenant, je ne pleure plus.
Même si je n'ai pas eu l'expérience, je ressens quand même ce que ça fait de voir des insultes antisémites. Ça me touche même si je ne l'ai pas du tout vécu comme elle. Mais non, bah, ça me met en colère, ça me rend dingue, ça me rend malade. Les réseaux sociaux, ça fait hyper peur.
Florian Chinsky, Julia Valach l'explique. Elle ne croit plus en Dieu. Elle dit qu'il est allé en vacances dans son livre. Dieu était en vacances dans ce livre-là chez Grasset. Après 1945, des centaines de femmes et d'hommes ne se disaient plus juifs. Comment faire pour continuer de croire en Dieu après une tragédie aussi terrible que la Shoah ?
Oui. Difficile de croire en Dieu, difficile de croire aussi dans l'humanité. Et en même temps, tant qu'il y aura un être humain vivant, il y aura la possibilité que quelque chose de positif se passe. L'important pour le judaïsme, tel que moi je l'ai appris dans ma famille et par la suite, c'est pas de croire en Dieu, c'est de croire qu'on peut faire quelque chose dans sa vie. C'est de croire que peut-être on peut utiliser le mot de transcendance, qu'on peut être plus que ce qu'on peut être, qu'on peut, dans les circonstances les plus extrêmes, quand même trouver la ressource de quelque chose, de survivre, de transmettre. Et je pense que c'est de ça que parle le judaïsme, beaucoup plus que de l'existence ou pas de quel Dieu, le Dieu de la Bible, je ne sais pas. Il y a plein de passages où le personnage divin de la Bible n'est pas du tout le même. Dans le Talmud, il n'est pas du tout le même non plus. Dans l'ensemble,
la question de la croyance, malgré tout, elle est posée, elle est aussi vieille que les religions. Comment concilier le fait de croire en Dieu avec l'existence du mal ? C'est quelque chose
qui est très ancien. Mais les textes en parlent. Les textes en parlent. Le texte coranique, par exemple, le dit très bien. Il dit très bien que voilà, il y a eu plusieurs religions, plusieurs prophètes, mais les textes sacrés ne sont pas là pour priver l'homme de l'être humain, de sa liberté et de sa responsabilité. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là pour faire sauter ces idées-là. Non, l'être humain reste responsable et libre de ses actes aussi.
Et on la trouve, cette liberté, on la trouve justement dans vos échanges, dans vos dialogues, dans ce livre des femmes et des dieux qui est publié aux éditions des Arènes. C'est un dialogue passionnant. Merci infiniment à toutes les trois. Merci. On va continuer à parcourir l'actualité du jour, Émilie.
Oui, et ben l'actualité, elle ressemble à un film américain avec Bruce Willis ou Will Smith dans le premier rôle. Je vois déjà l'affiche, Mission Impossible 26. Et à la place de Tom Cruise, ben, les plus de 120 dirigeants de ce monde attendus à la COP26. Et leur mission, s'ils l'acceptent, sauver le monde car le chrono est lancé et visiblement la fin du monde est proche.
It made clear that the lights are flashing red on the climate dashboard.
But looking at the goal of keeping global warming well under 2 degrees, we did not do enough.
We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough.
It's 1 minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now.
Mais combien de fois avons-nous été à cette dernière des dernières chances et pourquoi la COP26 serait-elle plus extraordinaire que la COP1, la COP6 ou la COP22? Eh bien parce que comme la COP21, des engagements concrets doivent être pris. Les pays doivent promettre d'accroître tous les 5 ans minimum leurs engagements climatiques afin de parvenir à la fameuse neutralité carbone d'ici à 2050. COP26 est extraordinaire aussi parce qu'après avoir été repoussé d'un an à cause de la pandémie, c'est un véritable défi. Logistique. Extraordinaire enfin parce que cette année, l'urgence climatique n'a jamais été aussi visible. La planète brûle et ce n'est plus au sens figuré. Avec près de 190 000 incendies dans le monde, cette année a battu tous les records. Comment oublier les feux meurtriers cet été en Californie, en Algérie, au Liban, en Turquie, en Italie ou sur les images que vous avez vues en Grèce. Quand ce n'est pas le feu, c'est la pluie avec des inondations systématiquement dévastatrices ou du vent, dit plutôt d'ailleurs ouragan, tempête. Tornade, difficile donc d'être optimiste. Emmanuel Macron, le premier, s'est dit inquiet. L'optimisme, c'est peut-être une question de génération. La jeunesse qui n'a pas peur de dire qu'elle est la génération sacrifiée avait pourtant une positive attitude des jeunes qui ont salué l'arrivée de la militante Greta Thunberg au Royaume-Uni. Un autre monde est possible.
Un autre monde est possible, en tout cas on voulait en parler avec notre invité ce soir. C'est l'un des plus grands explorateurs de notre époque, le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Il connaît l'Arctique et l'Antarctique mieux que personne et c'est un infatigable défenseur de la planète. Jean-Louis Etienne est l'invité de C'est à vous. Bonsoir Jean-Louis Etienne.
Bonsoir.
Et bienvenue, installez-vous avec nous, explorateurs des pôles mais aussi des océans. D'ailleurs votre dernier livre leur est consacré, il vient de paraître aux éditions Paul Celle. On voulait vous entendre aujourd'hui particulièrement parce que vous êtes sans doute l'un des plus grands témoins du réchauffement climatique. Vous l'avez vu alors que pour beaucoup on a des rapports du GIEC, on a des discours de scientifiques, vous l'avez vu de vos yeux. Et vous avez entendu tous les mots que rappelait Émilie, tous les grands mots pour décrire les enjeux de la COP26. Vous dites enfin, ou est-ce que vous vous dites c'est trop tard?
Non, pas trop tard. Heureusement qu'il y en a des COP pour rappeler systématiquement qu'il est urgent d'agir. Mais le problème d'une grande complexité, hein, c'est pas on et off, quoi. Il n'y a pas les bons et les méchants, mais... C'est une grande complexité, ça touche à l'énergie.
Oui, mais comment croire qu'on puisse encore éviter la catastrophe, Jean-Louis Etienne?
Mais je vais faire un peu de leçon de choses.
Oui.
Hein, pour qu'on comprenne, parce qu'on peut parler beaucoup. En 2019, on a envoyé 43 milliards de tonnes, 43 milliards de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère. On a toujours l'impression qu'on pouvait tout envoyer dans l'atmosphère et que ça partit dans le cosmos. Oui. En fait, ça reste là, dans une toute petite couche qui s'appelle la troposphère. Ça fait 10 km d'épaisseur. Vous partez du centre de rotation de la Terre, vous arrivez dans le studio, là, vous avez fait 6500 km. Les 10 derniers kilomètres, c'est la troposphère. Tout se met là-dedans. 43 milliards en 2019. Vous vous rendez compte? Donc, il y a 45% qui reste là et qui est responsable du réchauffement climatique. 25% est repris à terre par la végétation, par la photosynthèse des plantes, le pigment de chlorophylle, qui se nourrit en captant le gaz carbonique de l'air et sous l'action de la lumière fait son glucose. Voyez. Donc il faut préserver le vert, c'est pour ça qu'on dit sans arrêt, arrêtez la déforestation, mettez du vert, parce qu'il n'y a que le vert.
On a pas et du bleu, parce que les océans aussi.
Et j'y arrive. Et
compte.
Du bleu, mais l'océan n'est pas que bleu, il est vert aussi, si vous voulez, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phytoplancton, les herbes planctoniques, les microalgues qui nourrissent toute la faune, donc, et qui prend sa part. Et l'océan, merci l'océan, si vous voulez, dans ce rôle-là, il absorbe 93% de l'excès de chaleur. 93% de l'excès de chaleur est absorbé par les océans, c'est pour ça qu'ils se réchauffent, qu'ils se dilatent, et le CO2 se dissout dans l'eau de l'océan aussi. Donc, vous voyez, on est très très loin du compte à l'heure actuelle, donc tout ce qu'on en voit reste là-haut. Donc, effectivement, ça aggrave le sujet.
Et vous, vous l'avez vu. Alors, c'est vrai qu'il y a les rapports du GIEC, il y a les images spectaculaires que nous montrait Émilie, d'événements climatiques extrêmes. Mais je rappelle, et c'est juste en suivant votre parcours, c'est un voyage dans l'espace et dans le temps. En 1986, vous accomplissez cet exploit, donc d'être le premier homme à atteindre seul le pôle Nord. En 2002, vous êtes retourné en Arctique pour une mission banquise. En 2010, vous avez traversé l'océan Arctique en ballon, en montgolfière. Qu'est-ce qui vous a marqué à chaque fois? Et comment est-ce que vous pouvez nous aider, nous, à prendre la mesure d'une situation qui n'a jamais cessé de se dégrader?
Je vais vous parler de l'accélération de l'impact du réchauffement climatique. Donc, vous l'avez mentionné, j'étais en 86 au pôle Nord en tirant mon traîneau. 86, il y a quelques années. J'y suis revenu, vous l'avez dit, en ballon. J'ai survolé en ballon et je l'ai fait au mois d'avril. Début avril. Début avril, c'est la fin de l'hiver en Arctique. Eh bien, j'ai vu des immensités d'eau libre, non gelée, à la fin de l'hiver en Arctique. Donc, il y a quelque chose qui réchauffe. Vous voyez ce que je veux dire? La machine est en route, quoi.
Oui.
Et en Antarctique, j'ai traversé tout l'Antarctique à traîneau à chien. Les 600 premiers kilomètres, ce qu'on appelle une plateforme de glace, les ice shelves, ils ont disparu.
Disparu.
Une partie en 2000, l'autre partie en 2000 de l'eau. C'est des grands icebergs qui sont partis et qui sont allés fondre dans les océans. Donc, les régions polaires nous enseignent qu'effectivement, le réchauffement climatique est à l'œuvre. Elles nous renseignent sur autre chose aussi, c'est que l'homme, et ça, on le sait maintenant, mais on a mis du temps à le croire, que l'homme est responsable du réchauffement climatique.
Alors, justement, vous allez nous dire qui doit agir et qui doit agir en priorité. Mais cet après-midi à Glasgow, on a vu plusieurs grands dirigeants de la planète tirer de nouveau la sonnette d'alarme. Et c'était à la tribune de la COP26.
Trop d'entre nous prennent ici des engagements et ensuite signent des accords commerciaux qui font exactement le contraire. Nous ne pouvons plus continuer à avoir une planète qu'on fait fonctionner selon une grammaire et des règles qui n'intègrent pas en son cœur, ces contraintes.
Within the growing catastrophe, I believe there's an incredible opportunity. We have the ability to invest in ourselves and build an equitable clean energy future, and in the process, create millions of good paying jobs and opportunities around the world.
Vous êtes habitué à la solitude des espaces infinis. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces grands leaders parler de ces sujets-là?
Il faut espérer que quand ils reviennent à la maison, effectivement, ils mettent en œuvre ceux qui les inquiètent. Et il y a juste raison, ils ont raison de les inquiéter. Si vous voulez, il faut limiter les émissions de gaz carbonique. Donc il faut limiter les énergies fossiles.
L'embêtant, c'est ceux qui ne sont pas sortis de leur maison.
Eh oui.
Oui. Ouais. Oui.
Xi Jinping, 30% des émissions de CO2, la Chine.
Oui. Il n'a pas fait le voyage.
Poutine, qui n'est pas loin. Modi, le Premier ministre indien, qui a promis une neutralité carbone pour 2070.
Oui, ça c'est dramatique.
On est très très loin. Oui. Et la Chine a dit que rien ne se passerait avant 2030, puisque la promesse de la Chine, c'est un pic d'émissions avant 2030, jusqu'à présent, c'était en 2030. Or, on sait que c'est dans la décennie, là, maintenant, qu'il faut agir. Le problème, ce n'est pas le moyen terme, là, c'est le court terme, les années à venir.
C'est l'urgence. Et tout à l'heure, vous parliez justement des principaux responsables, de l'homme qui est responsable par son impact sur le réchauffement de la planète. Mais la question de la responsabilité, Émilie, elle est posée...
Qui sont les responsables? Et puis, il y a des absents à la COP26, mais on le voit,
chacun
le constat
de
est
nous
sans
est responsable.
Chacun de nous.
Mais bien sûr, on est émetteur. Vous prenez votre voiture, vous êtes un émetteur de gaz carbonique. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais on a besoin de sa voiture pour se déplacer.
Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire, mais ça veut dire qu'il faut limiter au maximum les émissions de gaz carbonique. Donc, il faut limiter au maximum les énergies fossiles. Nous avons des économies d'énergie à faire. La réponse, elle est comportementale. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence sur sa vie personnelle.
Chacun
d'entre
nous.
Déjà personnel. Oui, personnel, familial, politique, etc. Tout le monde, être efficace sur sa zone d'influence. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, la réponse, elle est technologique. Il va falloir développer les énergies renouvelables et on va faire de l'électricité. Ça ne vous a pas échappé que les moteurs thermiques, normalement, ça devrait être la fin, on pense, dans quelques décennies.
Dans le débat en ce moment, on parle beaucoup de nucléaire. Oui. Est-ce qu'on peut être écologiste et pro-nucléaire ?
On n'est pas pro-nucléaire, on est pour les énergies décarbonées. Oui. Et si vous regardez la densité, E égale MC2, c'est imbattable. E, c'est l'énergie, M, c'est la masse de la matière, et C, c'est la célérité. La célérité, c'est la vitesse de la lumière. Donc, dans une fusion dans le soleil ou dans une fission dans une centrale, vous avez une production d'énergie proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. C'est absolument imbattable. Donc, non, on ne peut pas se passer de l'énergie nucléaire pour faire de l'énergie décarbonée. On va avoir besoin de beaucoup d'électricité avec toutes ces voitures qui vont abandonner le moteur
thermique. Malgré les déchets
nucléaires. Bien sûr, mais on vous entend et on a l'impression que vous êtes encore optimiste, contrairement à tous les discours sombres qu'on vient d'entendre. En 2023, vous allez reprendre la mer Jean-Louis Etienne sur un bateau, alors justement, qui vient du futur, le Polar Pod, pour aller observer l'océan du côté de l'Antarctique. Et c'est encore une expédition. Vous croyez au génie humain pour mieux connaître et lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Vous avez encore cette foi-là ?
J'ai la foi parce que, si vous voulez, l'intelligence humaine, elle est remarquable. Vous voyez, on a conscience de la solution, de la situation, et on a l'intelligence des solutions. Mais il faut avoir le courage et l'audace de les mettre en œuvre tout de suite. Si vous voulez, on parle du nucléaire comme si c'était un peu la peste tout le temps. Mais non, merci le nucléaire qui va nous donner beaucoup d'énergie, surtout aujourd'hui où on va passer des moteurs thermiques à des moteurs électriques. Ce qu'il y a, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps avec le nucléaire. Avec le nucléaire, parce qu'on en a fait... C'est mal né, le nucléaire. C'était l'intelligence humaine et on en a fait une bombe. Et absolument détestable. Alors que c'est une source d'énergie colossale. Mais on a perdu beaucoup de temps. Si on avait fait des progrès dans le nucléaire aussi vite que l'on en a fait dans les moteurs thermiques ou autre chose, si vous voulez, le téléphonie ou autre...
Mais ça fait du bien de vous entendre.
Mais oui, parce qu'on a des solutions.
Parce que vos paroles résonnent avec celles des jeunes qu'on entendait tout à l'heure et de la mobilisation et de la croyance qu'on peut encore
agir. On a besoin des jeunes, on a besoin d'ingénieurs, il faut qu'ils viennent.
Et on a besoin de vous aussi pour nous mobiliser en tout cas. Merci infiniment Jean-Louis Etienne d'avoir été l'invité de C'est à vous. Je rappelle ce dernier livre aux éditions Paulsen, Explorateur d'océan. Finalement, vous êtes donc l'un des grands explorateurs de notre époque. Vous préférez la mer ou vous préférez l'immensité blanche?
L'immensité blanche du Nord, c'est la mer gelée. Ça me va bien, si vous voulez. J'aime ces immensités, oui.
Eh ben, merci infiniment d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous tout de suite. Le 5 sur 5, Mathieu Béliard.
Bonsoir Ali, bonsoir à toutes et à tous.
Rebonsoir au sommaire ce soir.
Emmanuel Macron montre les muscles au sommet du G20. Il a même traité le Premier ministre australien de menteur. On en parle avec le journaliste Pierre Aski dans un instant. The Event, un week-end de jeux vidéo en ligne. Pour la bonne cause, plus de 10 millions d'euros récoltés au profit d'Action contre la faim. Et puis je poserai la question qui fâche à la fin de ce 5 sur 5. Est-ce qu'Ali Badou était déguisé pour Halloween ? Et si oui, en quoi ?
Oula ! Et on commence quand même par quelque chose de plus sérieux. Le président français Emmanuel Macron à l'offensive sur la scène internationale.
Et il faut croire qu'Emmanuel Macron était en forme ce week-end de sommet du G20 à Rome, décidé à régler ses comptes en tout cas, des relations très tendues, toujours, entre la France et le Royaume-Uni de l'après-Brexit sur le dossier de la pêche. Évidemment, l'ultimatum français, c'est demain. Les Britanniques doivent accorder davantage de licences de pêche à nos bateaux. Sinon, plus de débarquement de marchandises anglaises chez nous. Regardez cette petite passe d'armes entre Boris Johnson et le président français.
Nous allons évidemment travailler très étroitement avec nos amis et nos partenaires pour aller au fond des questions qui dérangent. Je dois dire que nous sommes un peu inquiets que la France soit sur le point d'enfreindre ou qu'elle enfreigne déjà l'accord de commerce et de coopération que nous avons conclu.
Nous avons remis aux équipes du Premier ministre Johnson, un document actant de cette méthode. Maintenant, la balle est dans leur camp. Si les Britanniques ne font aucun mouvement de manière évidente, les mesures qui sont prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place.
L'ultimatum, c'est donc demain. Alors si c'était aussi un week-end de retrouvailles avec Joe Biden, première rencontre en tête-à-tête après l'affaire des sous-marins, est-ce qu'on peut parler de réconciliation ? On va y venir. Quoi qu'il en soit, le président Macron voulait montrer à son homologue et au monde que la France ne compte pas se laisser humilier. Je vous invite à bien observer le regard du président français sur l'extrait à suivre. Joe Biden qui, lui, joue une carte plus humble.
Nous avons pas d'amis, pas d'alliés plus loyal ou plus décent que la France. Soyons clairs, la France est un partenaire de très grande valeur. Nous avons trop souffert ensemble, trop célébré ensemble pour que quoi que ce soit puisse nous séparer. Je vais vous dire une chose très claire devant la presse. La relation avec la France est un partenariat de grande valeur, sérieux. Vous êtes là pour nous, nous serons là pour vous. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble.
Vous avez pu voir aussi le temps hein, que met Emmanuel Macron à répondre à la poignée de main du président américain. J'en reviens, Ali, à la crise des sous-marins avec une autre image. Un journaliste australien a voulu interroger Emmanuel Macron au sujet de Scott Morrison, le premier ministre d'Australie. La réponse du président est sans équivoque.
Can you trust Scott Morrison again?
We discussed. I respect.
Can you trust him, though?
I mean, we will see what he will deliver. I have a lot of respect for your country. I have a lot of respect and a lot of friendship for your people.
Do you think he lied to you?
I don't think. I know.
Bonsoir Pierre Aski.
Bonsoir Ali.
Et merci d'être avec nous ce soir dans C'est à vous pour nous expliquer ce qui vient de se passer. C'est du jamais vu, le président français qui traite tout simplement un Premier ministre, celui de l'Australie en l'occurrence, de menteur.
Entre alliés, c'est exceptionnel parce que il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2 mois, on était des alliés très proches de l'Australie à qui on vendait des sous-marins. Donc cette scène, elle est assez inédite. Qu'on s'insulte entre adversaires, c'est rare, mais ça peut être concevable. Entre alliés, c'est une... On n'a jamais traité Trump comme ça, de manière aussi cassante. Parce que ce qui est très étonnant, c'est la répartie, parce que tout ça n'est pas préparé. Le journaliste a tendu le micro à Macron qui passait, et sa répartie a été sans appel. Je pense que c'est 50. Quand même assez exceptionnel. Même avec Trump, on a toujours mis des formes. Avec les Américains, on met les formes. Alors, il faut bien savoir que Macron fait ça avec l'Australie parce qu'il n'en attend plus rien. La cassure est tellement profonde qu'il peut se permettre effectivement de dire ce qu'il a sur le cœur.
Il n'est pas aussi dur avec Biden, peut-être avec Boris Johnson.
Les trois scènes.
Ouais, l'effet d'accumulation, quoi de commun entre ces trois scènes où on le voit tenir un discours diplomatique très peu diplomatique.
Oui, mais avec une nuance, c'est-à-dire que le rapport de force n'est pas le même et l'enjeu n'est pas le même avec les trois pays. Avec l'Australie, c'est cassé, c'est fini, on lui dit ses quatre vérités. Avec les Britanniques, on est au milieu du guet d'une négociation musclée et entre pays qui se connaissent depuis des siècles et qui peuvent se permettre de se dire des choses, de se friter d'une manière assez brutale, mais quand même entre amis, véritablement. Et avec Biden, on voit bien que le rapport de force est au profit des Américains. On ne veut pas rompre avec les Américains. On a essayé, et cette scène en était le témoin, d'obtenir des choses. Macron a obtenu de l'aide militaire pour le Sahel, une phrase gentille sur l'autonomie stratégique européenne.
L'acier aussi.
Oui, et l'acier, mais ça c'est plus global avec les Européens. Et puis... l'incident est clos.
L'analyse du langage corporel de la poignée de main.
Non, je ne pense pas qu'on en fasse trop parce que c'est le cœur de cette diplomatie-là. C'est-à-dire qu'on a un sommet qui est le festival de Cannes de la diplomatie. Tout se passe
Vous
sur
parlez
le
du G20 à Rome.
Du G20, tout se passe sur le tapis rouge devant les photographes. Ce qui se passe à l'intérieur, d'une certaine manière, importe peu et restera sans lendemain.
Après 2 ans de visio et de conférences sur Zoom.
Pendant 2 ans, on ne s'est pas vu. On a fait des visios qui étaient froides. Chacun faisait ses 10 minutes de discours que personne n'écoutait. Là, on a tous les à côté. Cette scène avec l'Australien, ce qui est formidable, c'est qu'il y a 20 ans, elle serait tombée à plat. Là, en un quart de seconde, elle a fait le tour du monde. Elle a provoqué une explosion en Australie.
Il a suffi d'un journaliste avec un téléphone portable.
Exactement.
Est-ce qu'on peut y voir malgré tout un changement de diplomatie? Est-ce que la France va rentrer dans des rapports de force plus durs qu'au début du quinquennat?
Non, je ne pense pas. Je pense que Emmanuel Macron saisit cette occasion qui est ce théâtre de la diplomatie mondiale pour se montrer à la manœuvre. Je pense que son but, c'est d'avoir l'air d'être un des hommes clés de cette planète. C'est son argument de vente numéro un. On est, ne l'oublions pas, à quelques mois d'une élection présidentielle, malgré tout.
Ah bon, il paraît.
Donc ça ne change pas le fond de la diplomatie, mais sur la forme, je pense qu'il y a, il y a une opportunité avec deux sommets, la COP et le G20, et il l'a saisi.
Alors, pour terminer,
par les élections,
ce volet international, alors que la COP26 démarre à Glasgow, on vient d'en parler, la reine Elisabeth devait être présente, excusée pour raison de santé, vous le savez, bonne nouvelle. Elle va mieux. Elle a été photographiée au volant d'une voiture dans le parc du château de Windsor.
Au volant ?
Une Jaguar...
Au volant ?
Oui, pour son plaisir personnel, hein, dans le parc du château. Hein, une Jaguar X-Type Estate. Je n'ai pas le modèle exact, Ali, mais comment dire ? Une voiture qui n'a de vert que la couleur.
Du greenwashing illustré parfaitement. Inquiétude aussi, Mathieu, autour du retour de ce qu'on appelle la drogue du violeur.
Oui, le GHB, incolore, inodore. Le GHB provoque des pertes de connaissances, des pertes de mémoire. Le parquet de Grenoble vient d'ouvrir une enquête après des signalements venant d'une école grenobloise de management. Mais c'est un retour sur tout le territoire, dans des soirées étudiantes, dans des bars. Reportage à Tours ce soir. Écoutez le témoignage d'Amandine que Camille Schmitt a rencontrée. Elle a été victime d'une dose de GHB discrètement versée dans son verre.
J'ai bu deux verres dans toute la soirée et en fait le troisième verre, plus d'image. Et on se retrouve le lendemain matin chez soi, on sait pas comment on est rentré, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on essaie de remettre tout dans son contexte mais il y a rien qui vient. Enfin, j'ai été traumatisée pendant peut-être bien un mois avant de pouvoir ressortir. J'habite en centre-ville, je me dis à tout moment je peux croiser mon agresseur. Je protégeais mes verres tout le temps, je buvais que du coca pendant un mois là. Et ouais, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais angoissée, vraiment angoissée. C'était peur de le trouver, peur de me recroiser devant lui et qu'il me refasse du mal, en fait.
Pour les autres. Ouais.
Toujours à Tours, Camille Schmitt a pu interroger des responsables de bar. Cette serveuse, par exemple, qui apprend à reconnaître les symptômes.
La personne va avoir des propos bien plus incohérents, va être plus amorphe, les yeux dans le vague, totalement faible, ne sait plus même pas où elle est, ne sait pas ce qu'elle dit. On le voit totalement que la personne est beaucoup plus perdue que si elle était sous alcool.
Alors il existe des solutions sommaires, bien sûr, mais utiles tout de même. Regardez ce que nous présente ce patron de bar.
Nous, on a mis à disposition du client des capotes de verre, tout simplement. Hop, ça ressemble à ça. Un petit bouchon qui on vient placer sur le verre du client. On peut boire directement sur la petite tétine qui est là ou sinon placer une paille à l'intérieur. Et puis voilà. Il faut quand même surveiller son verre, notamment, parce qu'il suffit qu'on laisse 2 minutes, on aille aux toilettes, on revient, c'est peut pas arriver. Ça va très vite.
Beaucoup de questions en plateau. À quoi ça ressemble, cette capote de verre ?
Aussi simple que ça. Voilà, un morceau de plastique.
Il faut continuer à surveiller son verre, quand même, le dit-il.
On continue à surveiller son verre, bien évidemment, dans ces soirées où le GHB semble de retour.
Évidemment. Et il y a le jeu vidéo. Le jeu vidéo qui n'est pas qu'un jeu et qui peut aussi servir la bonne cause.
Zerator, Gotaga, Inoxtag. Alors, si ces noms ne vous disent rien, pas de panique, c'est normal. Dites-vous que vos enfants connaissent, eux. Tous les ans, les plus célèbres streamers français se rassemblent au profit d'une association. Ce sont des stars du jeu vidéo qui jouent en ligne pendant 50 heures. Un vrai marathon, tout un week-end de jeux, de défis et d'appels aux dons avec un nouveau record cette année. En un week-end, ces stars du net ont récolté 10 068 177 euros au dernier décompte. Ça, c'est le tweet qui annonce la victoire au profit d'Action contre la faim. The Event devient un moment incontournable du calendrier caritatif. Regardez au fil des années, 170 000 euros récoltés en 2016 pour la première édition, le million atteint en 2018 pour MSF, plus de 5 millions l'an dernier pour Amnesty International et le double donc cette année pour Action contre la faim. Si vous découvrez complètement ce sujet. Voilà à quoi ça ressemblait ce week-end.
Je déclare The Event 2021 ouvert. Merci à tous. C'est parti pour 3 jours de live.
Ouais maman, je suis désolé, je suis au boulot là.
Faut pas tomber, t'as des boules qui te...
Oh, aïe, aïe.
Quelle est la capitale du Sri Lanka?
On m'a toujours dit j'ai un beau crâne.
Ça je l'ai pas encore testé du tout.
C'est vraiment terrible de perdre.
Ne te casse pas la nuque.
C'est parti. 10 millions d'euros. Allez les gars. On l'a fait les gars.
Ça, on a reconnu
Mohamed.
C'est la fin. C'est la fin de l'événement. Alors, une pointe d'audience au moment de l'annonce des résultats. 700 000 spectateurs en ligne sur la plateforme Twitch. Je rappelle, un peu plus de 10 millions d'euros récoltés.
Et puis, c'est aussi la fin du week-end de Halloween.
Ah oui, la célèbre fête celte qui est désormais célébrée dans le monde entier. D'abord, c'est aussi le week-end de la traditionnelle fête des morts au Mexique. Le défilé du jour des morts a fait son retour. Les Mexicains ravis. L'événement avait été annulé l'an passé pour cause évidente de pandémie. On retourne aux choses d'Halloween, la fête américano-celtique. Bonbon, déguisement, petit morceau choisi. Vous étiez déguisé ce week-end?
Ouais, je suis sûr d'avoir reconnu quelques membres de l'équipe. Et on termine ce 5 sur 5.
Je ne dirai pas s'il était déguisé, non. Ali.
Jamais, sur une touche sucrée.
Oui, un hommage ce soir à Ado Campeol, dont on a appris la mort aujourd'hui. J'entends Mohamed Bouafsi se réjouir. C'est l'inventeur d'un des desserts les plus commandés au restaurant dans le monde, le tiramisu. Alors, comme j'ai découvert que le tiramisu datait seulement des années 60, comme beaucoup.
Deux fois, du coup. Ouais.
On ne peut pas faire d'overdose de tiramisu. Je vais appeler Victor, d'ailleurs, qui va nous donner un petit coup de main peut-être ce soir, justement puisque je vous ai préparé une petite surprise sur le plateau. Enfin, un hommage, ça se rend hommage correctement. Comme beaucoup de recettes, il y a une histoire, une légende. Dans les années 60, une petite cuillère de mascarpone serait un jour accidentellement tombée dans un appareil sucre jaune d'œuf. Forcément, c'est bon. S'en est suivi l'idée des boudoirs, du café, du cacao. Ado Campeol avec 93 ans. Mais comme on est français, même avec cette info, on arrive à dire cocorico, puisque Nabil Barina, que vous voyez à l'écran, c'est un chef français, un Lyonnais, sacré champion du monde du tiramisu il y a tout juste une semaine.
Il y a un championnat du monde du tiramisu.
Et nous sommes tenants du titre.
Et ça vous change de la nourriture à laquelle vous avez droit dans...
Ça va vous faire du bien.
Dans vos grandes expéditions.
On le partage, non ?
Non, c'est d'abord.
On va le partager, on va sortir les cuillères. Merci Mathieu, merci infiniment Jean-Louis Etienne d'avoir été notre invité. Merci pour votre éclairage. Je rappelle ces explorateurs d'océan aux éditions Paulsen. Pierre Aski, merci d'avoir été notre invité géopolitique. C'est tous les matins dans le 7-9 de France Inter. Et à suivre dans C'est à vous, deux comédiens époustouflants réunis pour la première fois sur scène, François Berléand et Nils Arstrup. Et puis Caroline Vigneault et Sophia Aram sont à l'affiche d'un film aussi drôle qu'engagé, Flashback. Elles viendront nous en parler. Et évidemment, il y aura Bertrand Chameroy, Vu et la story média de Mohamed. T'es prêt ?
Je suis archi prêt.
Et le dîner, évidemment. À tout de suite.